friand d'art. L'émission culturelle d'Alto.
Alors moi, il m'épate.
Bonjour, je suis Michel Najar. Cette émission s'appelle Cinéma sans frontières. L'invité d'aujourd'hui est le cinéaste Bernard Favre, à qui l'on doit La Trace. C'est son œuvre la plus connue. Je vous propose aujourd'hui d'approfondir Le Sillon. Cette émission a été enregistrée le 24 novembre 2020. Bonjour Bernard Favre. Quel temps fait-il dans la Sarthe ?
Il fait très beau. Ça fait une semaine qu'il fait beau. Mm-hmm. Ce qui fait que cet après-midi, je ne travaillerai pas au jardin, puisqu'on est ensemble. Mm-hmm. Mais sinon, ça me permet de travailler au jardin l'après-midi.
Bon.
Parce qu'il ne fait pas très froid. Alors, on est à la... Le matin, on est à zéro.
Hein. Oui, ici aussi.
Mais
oui.
Dans la journée, mm-hmm. on est à 12-13. Voilà.
Je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots.
Moi, je m'appelle Bernard Favre. Je suis né en juin 1945. D'un père originaire de Tignes et d'une mère originaire du centre de la France. J'ai donc grandi en banlieue parisienne, dans le Grand du Nord, dans le 9-3, comme on dit. J'ai eu des difficultés, mais j'ai fini par avoir un baccalauréat, dont je n'ai rien fait, entre guillemets. Et depuis longtemps, je voulais faire du cinéma. Et comme mon père pensait que c'était pas un métier, j'ai commencé pour lui faire plaisir des études de médecine. J'ai arrêté au bout de 3 mois, je me suis fâché avec mon père, et je suis rentré projectionniste dans une salle de cinéma, pensant que je rentrais dans le cinéma. Donc comme quoi j'étais très innocent.
Alors voilà, je souhaiterais là que du coup que tu prolonges cette présentation en disant les rencontres, les expériences que tu as vécues avant d'en arriver à la réalisation de longs métrages de fiction. J'insiste.
Les rencontres dans professionnelles, tu veux dire.
Enfin, oui, bien sûr.
Quoi avoir avec son métier. Ça a commencé avec Jean-Dominique Lajoux, cinéaste ethnologue, dont je suis devenu un peu le porteur de valises. Il cherchait un assistant pour faire plein de choses, entre autres des projections au Musée des Arts et Traditions Populaires. Mais il avait besoin d'un assistant pour synchroniser plein de rushs qu'il avait tournés sur des tonnes de sujets. Mais il faisait des films à très long terme. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ça, c'était, je pense, la rencontre, c'est pas la rencontre principale, ça a été la rencontre déterminante.
D'accord.
Parce que j'y ai appris techniquement un certain nombre de choses, la synchronisation, le début du montage, etc. J'y ai appris à regarder les choses. J'ai appris ce que pouvait être l'ethnologie et l'anthropologie. Donc voilà. Mais comme j'ai appris le montage, je suis devenu monteur. Et le montage, c'est assez compliqué. Enfin, jusqu'à là, donc, je touche pas à la fiction. Je deviens monteur, je fais des piges à la télévision, des piges dans des sociétés qui travaillent pour la télé. Et puis, je commence à monter quelques films, soit militants, soit ethnographiques, là, via le CNRS, et toujours pas de fiction. Mon premier travail en fiction, toujours en qualité d'assistant monteur, je travaille avec un monteur qui s'appelait François Sépi, qui avait bien compris que je savais pas faire grand-chose, mais qui avait accepté de me prendre, un mec très sympa, et une chef monteuse, qui avait travaillé avec Orson Welles. Là, ça a été quand même pas mal. Donc là, j'ai commencé à travailler un peu en fiction, mais ça m'avait vite fait chier, en fait. Les fictions sur lesquelles je travaillais, ça m'emmerdait, en fait. Genre comédie à la française, c'était des potes d'Audiard.
D'accord.
Ça m'intéressait pas beaucoup.
T'as un titre, non ?
Pour avoir raison. Hein.
Tu as un titre en tête, non ?
Non.
Non.
Bon. J'ai oublié tout ça.
Ouais, bon.
J'ai oublié les noms. C'est en plus ce qui est vrai. Le nom du réalisateur, par exemple, je ne me rappelle plus du tout. Je me rappelle des lieux où j'ai travaillé. Je me rappelle des formats d'images. Je me rappelle des choses comme ça. Des gens, non. Pas de ces gens-là, mais non. Non, je ne me rappelle pas.
Bah, au dire, il devait y avoir Gilles Grangier, Serge Corbert, Georges Ottener.
Non, c'était plus, c'était moins important que ça comme réalisateur.
Ah, d'accord.
Bon. C'est pas grave.
C'est pas grave, non.
Ça ne m'a pas marqué, en tout cas.
Bon.
Ce qui m'a marqué, c'est que c'est vraiment, c'est pas du cinéma que j'avais envie de faire.
Bon. Voilà. Très bien. Et donc, tu as fait du cinéma, donc tu as monté des films de deux types, en gros, ouais. Militant et ethnographique.
Enfin, ouais. Documentaire, voilà. Ethnographique, documentaire et militant.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'atterris sur un film. Alors ça, c'était, ça fait 40 ans cette année, donc en 1980. Sur un film, je me suis devenu le monteur d'un film qui s'appelait La Fin, F-I-M, La Fin du Monde. C'était un documentaire fait d'entretien.
Excuse-moi, il n'y avait pas La Rue de l'Enfer avant
Alors ça, c'est comme réalisateur.
D'accord, oui, ok.
Ça, c'est comme réalisateur. Mmh. Mais, enfin, je parle toujours en tant que monteur,
oui.
En 80, parce que je fais de la réalisation avec La Rue de l'Enfer et avec La Montagne Dispersée,
oui.
Mais pour manger, comme on dit, je continue de faire du montage.
Ok. Mmh.
D'où La Fin du Monde. Mmh. La Fin du Monde, qui est des entretiens avec un certain nombre de gens, économistes, ingénieurs agronomes, etc., très engagés, et qui expliquent comment le monde occidental affame ce que l'on appelle le tiers-monde.
Oui, ok.
Un réalisateur qui était un militant, qui s'appelait Théo Robichet, et qui était un type du groupe Slon. Le groupe Slon, c'était un groupe qui avait monté Marker, Chris Marker.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'à la fin du montage, il me dit « Tiens, je vais demander à un pote de venir pour voir ce qu'il pense du film. » Et je vois rentrer dans la salle de montage Chris Marker qui s'assied à la table de montage et qui regarde le... J'ai dit là, je suis foutu. Là, je crois que je vais me changer de métier dans mon temps. Et alors, c'est horrible parce que, tu sais, il regarde, puis il se gratte, ou je sais pas quoi, il a un geste, il regarde son pote et tout, et à chaque fois, je me dis, oh putain, ça va pas du tout, moi, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Mm. J'ai passé une heure et demie en...
Non, mais ce que je sais, c'est qu'il était plutôt gentil, ce Chris Marker, comme
bonhomme. Il était très intelligent.
Ouais, ouais. Ah, bah,
non,
ça, ouais.
Je pense qu'il était... Non,
il était plus intelligent que gentil.
C'était bien, il aurait dit que c'était pas bien.
Ouais.
Il avait ce courage-là. Mm. Entre autres.
Ouais. Donc, tu en arrives, quand on parle de long métrage de fiction, pour toi, c'est La Trace.
Bernard Favre est l'invité de l'émission Cinéma sans frontières.
J'avais l'idée, de toute façon j'avais toujours eu envie de faire des films de fiction, hein, moi aussi. Mm. Pas que, mais aussi. Mm. Et puis l'idée de La Trace est née d'une façon très saugrenue. J'avais des amis qui étaient à Cannes, au marché de la télévision, des films pour télévision, tout ça, et qui avaient présenté... Mm. La Montagne Dispersée au patron des documentaires de la télévision suisse. Il l'avait vu et qui avait dit oh, « c'est vachement intéressant, je le rencontre ». Il me dit « c'est vraiment bien, ça, bon bref ». Il me dit « est-ce que vous avez des projets ?» Donc ça, c'est des questions, tu réponds toujours oui. Quand t'as un mec qui pourrait peut-être, je dis « oui, oui ». Et il me dit quoi ? Ben, je dis « une histoire de colporteur ». Il me dit « c'est drôle que vous disiez ça parce que mon père était colporteur ».
Bingo.
Voilà. Et c'est quoi ? Je raconte l'idée d'un colporteur, Joseph, au 19e siècle, au moment du rattachement de la Savoie à la France. Je suis en train d'inventer, quoi.
En même temps que tu réponds à la question, tu improvises.
Il me dit, c'est formidable. Est-ce que je peux lire quelque chose? Je lui dis, oui, bah écoutez. Mais il me dit, parce que je pars demain. Il dit, ouais, c'est pas un problème. Je vous dépose ça demain matin à votre hôtel. Donc j'ai passé la nuit à écrire, à faire un texte. C'était pas un texte d'ailleurs, c'était une suite de séquences. Et en fait, cette suite de séquences racontait l'histoire de Joseph, qui, etc. Et que j'ai retrouvé il n'y a pas si long, il y a 2-3 ans, en rangeant des trucs. Et en fait, bizarrement, c'est pas très loin de ce qu'a été le film. Mmh. Il le lit et il me dit, oh, c'est vachement intéressant. On était en avril. Il me dit, vous en êtes tout du scénario. Ben, je dis, oh, je travaille. Mais il sera prêt quand? Oh, je dis, pour la fin août. Je me suis mis à écrire un scénario qu'à la fin août, début septembre, je lui ai envoyé. Et il a dit, si jamais vous réussissez à monter le film en France, nous mettrons de l'argent dedans. D'où me mettre au boulot sérieusement. Ouais. Après, ça n'a pas été si facile que ça, mais voilà, c'est le départ.
D'accord.
Ben, mais La Trace, c'est une fiction documentaire. Hein.
Ben oui, c'est un peu ta marque de fabrique. Hein, quand tu fais une fiction, il y a beaucoup d'aspects documentaires.
Beaucoup. Ouais. Peut-être pas. Il y a deux films qui échappent quand même. C'est l'entraînement du champion à la course, qui n'est pas documentaire. Il n'y a pas de côté documentaire. Et puis, Pondichéry, Dernier comptoir des
Exact.
Hommes.
Voilà.
Et aussi purement fiction. Quoi.
Mmh. Ouais.
Alors que le téléfilm, La surface de réparation, c'est un téléfilm, mais ça a quand même à voir avec le documentaire.
Il y a beaucoup d'aspects documentaires dedans, oui. Sur le foot, sur l'actualité du moment, tout ça. Ouais. Je voudrais revenir sur un point qui importe un peu au Savoyard. C'est tes attaches avec la Savoie. Et il semble que tu aies des attaches assez fortes avec l'ancien duché, en moins en tant qu'auteur de cinéma, parce que tu as fait Outre la montagne dispersée, sur les conséquences de l'édification du barrage de Tignes. Tu as dirigé un ensemble documentaire à l'occasion du 150e anniversaire du rattachement ou de l'annexion, ou peu importe. La série documentaire aussi sur la résistance dans les Alpes. Et puis, bien sûr, le film s'appelait « Cette lumière n'est pas celle du soleil ». Et, bien entendu, La Trace, dont tu parlais à l'instant, et dont j'ai déjà parlé sur cette antenne. J'aimerais que tu nous expliques cette permanence dans ton inspiration, on va dire.
Le fait... Donc, moi, je suis né en 1945. Tignes, le barrage, à ce moment-là, je ne sais même pas s'ils ont commencé à construire. Enfin, il est en passe d'être construit. Donc, mon grand-père vend Tignes à la suite d'un tour de passe-passe méprisable de la part de l'EDF. Mon grand-père était à Paris, où il tenait une blanchisserie. Et donc, les représentants de l'EDF sont venus le voir pour lui dire, écoutez, voilà, donc vous savez qu'on rachète à Tignes des maisons. Pratiquement tout le monde a signé, il reste vous et quelques individus. Alors mon grand-père a dit, ah ben merde, alors les autres ils ont vendu, bon ben je signe, alors c'était pas vrai. Il lui avait menti. Donc déjà c'est des méthodes d'enculés quand même. De voyous, comme
voilà, voilà.
De salopards. Mais je retire rien à tous ces mots-là quand même, parce que je trouve ça dégueulasse. Quand même, vraiment, c'est berner les gens comme ça. Enfin, bon, bref. Donc, Tignes, moi j'ai connu Tignes jusqu'en 49, c'est ça. Mais bon, sans plus, enfin, je veux dire, Tignes aurait continué de vivre, je serais un Parisien d'origine de Tignes. Sauf que ça a été une catastrophe pour les adultes, et donc tous les dimanches en famille, donc moi on parlait de Tignes, de cette catastrophe. Mon grand-père est mort au moment de la mise en eau, comme un certain nombre de personnes âgées. Ceci dit, il n'est pas très vieux, il avait 65 ans. Mais voilà, donc Tignes a pris une place. En fait, je suis Tignard, parce que je suis Tignard malgré moi. C'est le malheur qui a fait de nous des Tignards. Ça va, je m'en remets, hein, mais je suis fabriqué avec ça, quand même. Ouais, tout à fait. Et alors, d'ailleurs, une des conséquences, C'est dans la plongée sous-marine, que je ne fais plus vu mon grand âge, en plongée sous-marine, j'ai très peur sous l'eau. Et j'ai un jour compris pourquoi. J'ai mis du temps. Hein. Ouais, ça gâche une vie quand même, ce genre d'histoire.
D'accord. Donc,
de toute façon, ce que je raconte, très souvent, ce que je raconte a à voir avec ce que j'ai vécu ou ce que je connais directement. Que ce soit Tignes, que ce soit la résistance, que ce soit etc. Tout ça, ça a à voir avec des histoires familiales, des histoires éprouvées, etc. Voilà. J'invente rien. Hein. De toute façon, personne n'invente rien. Hein. Après, c'est le style, on pourrait dire, qui joue. Mais l'invention des histoires...
Moi, c'est le premier film de toi que j'ai vu, c'est La Montagne dispersée. Et j'avais trouvé...
Qui était un film, qui était un hommage, vas-y. On pourrait dire. Enfin, c'était même pas un hommage, c'était une tentative de dire que tous ces gens-là étaient quand même dignes d'estime. C'est pas parce que t'es un cutéreux que t'es méprisable.
Non, ça, on est d'accord, oui. Il semblait qu'à la fin du film... Tu as apporté l'argument de l'argent pour dire que bon, peut-être qu'ils ont raison de se plaindre, mais en même temps, ils ont été largement récompensés.
Ouais, ça remplace pas. Ça remplace pas tout. Oui, non.
Non, on est d'accord.
C'est pas exactement ça que j'ai dit, mais je dis que l'argent a pris une place très importante.
D'accord.
Non, mais il y a par exemple Matignard qui a refusé l'argent de l'EDF. L'argent est resté sur un compte bloqué. Et il est mort dans la misère, dans une bergerie au lac de Tignes. Il a refusé l'argent. Il a refusé l'argent de lui. Après, que les autres, bah oui. Sauf que l'argent, ça rend un peu fou, quoi. Voilà. Mais bon, ça rend fou les gens qui étaient peut-être un peu fous avant.
Oui.
Non, mais c'est un drame parce que tu as des gens... Par exemple, je connais... Enfin, c'est un vague cousin, mais... Un type donc a touché un petit peu d'argent et il est parti, il a tenté de faire de l'agriculture en plaine. Ça n'a pas marché.
Quel endroit
il a été, obligé de revenir à la montagne.
Ah oui, d'accord.
Même avec de l'argent, ça t'arrange pas. Non. Et même Trump, avec beaucoup d'argent, il est malheureux là parce qu'il a perdu.
Oui, bon, on va pas parler de ça. Ça nous
emmène
trop loin.
Non, mais c'est juste voilà, une association.
Et donc, il y a aussi, tu t'es aussi impliqué en Savoie dans la création de la Cinémathèque dans les années 90. Hein,
d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont venus te chercher.
Oui. Je sais qui est venu te chercher. Hein, tu sais.
Oui. Il y avait la trace. Enfin, c'est parce qu'il y a eu la trace.
Oui, c'est la trace, tout à fait. Tu avais fait deux circuits en 83, en 93. Pour le montrer, le remontrer à l'époque. Et à chaque fois, ça avait été des succès, hein, enfin, je me rappelle.
Il y avait entre autres, à travers le circuit d'un type qui s'appelait Georgel.
Il y avait un cinéma, oui.
Il y avait 5-7 salles, dont 2 s'appelaient La Trace. Mmh. C'était des histoires.
À Saint-Jorio, je crois, hein, et à Seyssel.
Puis il y avait des jolies expériences, je me rappelle, je ne sais plus où c'était en Haute-Savoie, dans la Vallée Verte, je crois, un tout petit village. Il y avait la salle de patronage qui faisait un peu cinéma, et il y avait le poêle qui était au milieu de la salle. Et c'était des expériences magnifiques, où les gens, c'était vraiment... Là, j'ai pris du plaisir.
Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce souvenir de soi, qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous, quand on se disait vous, si je porte à mon cou. En souvenir de toi, ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois quand on se disait vous en regardant le soir tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce soupir de soir qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se nouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se dénouent. Si je porte à mon cou en souvenir de toi cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux.
La suite de l'entretien avec Bernard Favre dans Cinéma sans frontières.
Je voudrais parler de l'histoire maintenant, parce que tes films sont souvent des films d'histoire, des films de fiction, donc et ont souvent un cadre historique très précis. Par exemple, l'histoire de la psychiatrie, la rue de l'enfer, le Risorgimento pour la Trace, la décolonisation pour Pondichéry, dernier comptoir des Indes, et les années algériennes, évidemment, que tu as fait avec Benjamin Stora, entre autres. Van Galerne, où c'est le mouvement vendéen en 1793. Je voudrais te rappeler, parce que je ne crois pas que tu t'en souviennes.
Je t'interromps.
Oui.
Elle est très prégnante, l'histoire est extrêmement prégnante dans... L'histoire est très prégnante dans le film avec Berry et Mérès, parce qu'elle est totalement absente.
Oui, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement du champion, oui. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de moi, je me rappelle la scène où tu le filmes en train de se passer de l'huile sur les jambes, tu sais. Oui. Là-dedans, je me disais, bon, c'est un film documentaire. Tu vois, ouais. Aussi. Ouais. Ouais. Bon, alors attends. Et je voulais te rappeler ce que disait Jean Tullard à ton sujet dans son dictionnaire des cinéastes. Jean Tullard disait que tu as fait. Il parlait de La Trace parce que c'était à peu près le seul film qu'il avait vu à l'époque, c'est vieux. Il dit La Trace est un film exemplaire de ce que devrait être l'histoire au cinéma. Et c'est un jugement que je partage évidemment. C'est pas.
Donc, mais pas ça alors, fait toujours plaisir.
Comment ?
Et en tous les cas, ça fait plaisir.
Hein, ah bah, c'est sûr, ça fait plaisir. Même à moi, ça fait plaisir. J'ai mis une 14.
Mais je ne suis pas le seul, hein, quand même. Hein.
Oui.
Parce que quand on voit, quand on voit L'Arbre aux sabots,
oui,
bah
oui,
avant La Trace.
Oui, mais c'est...
Quand on voit Histoire d'Adrien en France,
oui.
Quand on voit... il y a quand même eu des films avant qui oui. s'attachaient à ça.
Oui. D'ailleurs, je pensais à L'Arbre aux sabots. En regardant Le Vent de Galerne, l'autre jour, je pensais à L'Arbre aux sabots dans l'atmosphère du village. Tout ça. Bon, bref, peu importe. Mm-hmm. C'est pas là. Alors, ce que je voulais te poser comme question, c'est quel est le rapport idéal entre l'histoire et le cinéma ? Tu as commencé à y répondre. Hein, tu as commencé à y répondre, mais essaye de poursuivre.
Est-ce qu'il y a un rapport idéal d'abord ?
Ah oui, oui, il y en a.
Je ne sais pas si le cinéma. Je ne sais pas si le cinéma. Enfin, c'est le cinéma que je fais.
Mm.
Est-ce qu'il est indispensable que l'histoire soit là comme personnage ? Ce n'est pas forcé. Tout dépend en plus de sa place, parce que l'histoire peut être là et être encombrée complètement à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Moi, je pars du principe que être sans histoire, c'est la pire des choses qui existent.
Mmh.
Donc pour moi, ça joue un tel rôle dans nos destins qu'il est indispensable qu'elle soit dans les films. Quelle que soit l'histoire, hein, que ce soit la grande, la petite. Moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est le choc entre la grande et la petite.
Mmh.
Que la petite, elle est fabriquée en partie par la grande, mais la grande, si elle n'est pas la petite, elle n'existerait pas.
Voilà, oui, c'est ce que je m'attendais à entendre.
Voilà, c'est là où ça se noue, quoi. C'est ça qui vaut le coup, en fait.
Et puis, si tu veux, les rapports entre l'histoire et le cinéma, il y a un problème. C'est la plupart des films sont des escroqueries historiques. Je veux dire, c'est pas l'histoire est simplement là pour voilà. Bon, c'est pas. Alors que dans tes films et dans les quelques films que tu as cités, Histoire d'Adrien, etc., on voit ou le film de moi Pierre Rivière, on voit des gens qui sont confrontés à des problèmes qui ont réellement été posés et qui s'en sortent ou pas d'ailleurs. Mais le cinéma, il rend service à l'histoire, j'allais dire. Alors que la plupart du temps, le cinéma se sert de l'histoire pour vendre du cinéma, quoi. Voilà, c'est ça.
Quand même, quand on voit, par exemple, regarde le western, pour lequel j'ai une passion, une grande passion, le western, ça brasse l'histoire en permanence.
Ben oui.
Sans le dire, sans que ce soit ostentatoire. Je veux dire, c'est quand même ces histoires de frontières qui avancent, ces histoires de conquêtes, ces histoires de combats, de luttes, de ségrégation, c'est ça tout le temps. Avec une histoire. Qui peut être, alors après, n'importe laquelle, hein, mais bien sûr. C'est le tricotage quoi, qui se fabrique. Comment l'un dépend de l'autre, comment l'un fabrique l'autre, comment etc. Voilà.
Oui.
Je fais des gestes parce que je me dis que comme je passe à la télévision...
dans tes films préférés, il y a beaucoup de westerns, je crois savoir. Hein. Oui. Il y en a un
c'est
en particulier,
ça, non ? Winchester 73.
Voilà, ah oui, oui, oui.
Winchester 73, que je trouve une intelligence extraordinaire, parce que, en fait, bon, le vrai sujet du film, c'est une carabine.
Oui.
Ce qui n'a aucun intérêt, quand même.
En soi, non.
Sauf que, non, c'est vrai, tout s'en fout de Winchester. C'est pas complètement vrai, parce que c'était un fusil qui avait des particularités, sa première particularité, de faire monter les balles dans le canon. Mais c'est surtout que, C'est un objet qui est volé, repris, qu'on poursuit, chacun poursuit le voleur, essaye de récupérer l'arme, enfin, c'est extraordinaire. Et tout ça, en plus, dans la vastitude,
Oui, ce thème de l'objet qui est recherché comme ça, tu l'as repris dans la trace. Et, il me semble qu'on en a déjà parlé, une autre fois, il y a longtemps.
Il y a longtemps, j'étais jeune.
Nous étions jeunes. Et donc, ce film, il y a d'autres films, il me semble, qui sont importants pour toi. Je l'ai dit, tu me dis que c'est pas ma faute, mais je te répète, je vois la prisonnière du désert, j'ai pensé en regardant tes films. De John Ford. Ouais.
Bon, puis même les films de Ford, j'aime pas tout chez Ford, mais je trouve qu'il y a une façon de raconter les histoires qui est
magnifique. Oh, c'est un grand rapporteur.
Après, bon, c'est pas toujours mon truc.
C'est étrange.
Oui, moi, le cinéma américain, mais même aujourd'hui, je vais dire, c'est rare aujourd'hui. Même le cinéma américain, tu sais, on dit toujours, le cinéma américain. Non, le cinéma américain, c'est un énorme cinéma. Mais pas le seul.
Enfin bon, on peut penser que c'est le meilleur du monde quand on voit le nombre de films qu'il y a, et parmi le nombre de films, il y a effectivement de très bons films. Je veux dire, c'est inévitable.
C'est ce que disait Chabrol, plus tu fais de films, plus il y a des chances que tu en fasses des bons. Tu fais des navets, et plus tu as plus de chances d'en faire quelques bons. John, j'avais une passion, je l'ai vu plusieurs fois, c'était 3h10 pour Yuma.
Oui, bien sûr, oui.
Ça, c'était...
C'est un grand film, ça. Enfin, c'est un peu un grand petit film, on va dire.
Voilà, exactement.
Un grand petit film.
Pourquoi il n'y a pas vraiment de petit film ?
Non, on ne peut pas dire.
la suite de la rencontre avec Bernard Favre dans Cinéma sans frontières.
Je voulais te poser une question qui peut te fâcher, si jamais ça te fâche, tu me le dis. Hein, je vais juste te dire que tes films n'ont pas été d'énormes succès publics. Ça, tu le sais un peu.
Ça ne me fâche pas parce que c'est vrai. c'est pas vrai pour la trace.
Oui, non, ça c'est vrai. Oui, mais tes films n'ont pas été d'énormes
succès.
Ah, voilà. En plus, je rappelle tout de même, parce qu'on ne l'a pas dit, mais La Trace a été nommé comme meilleur film
César
83. Hein, ouais.
Ouais.
Et il n'a pas eu...
C'était Rukaznek.
Voilà, de Jeanne Palsy. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et alors, je sais que tu vas me dire que c'est probablement de ta faute s'ils n'ont pas eu d'énormes succès publics.
Non, mais je ne cherche pas le succès. Je ne le refuse pas, hein, mais je ne le cherche pas. Je ne fais pas ce qu'il faut pour le... Je ne sais pas tout à fait ce qu'il faut pour le rencontrer. Mais je m'en fous.
C'est pas du snobisme, c'est...
Parce que, par exemple, la Surface de réparation, qui est un téléfilm, hein, oui. La Surface de réparation,
bon, c'est un bon film.
Retour. Alors, c'est vrai qu'il y a... Alors, la télé, en plus, il y a du monde. Il y a plus de monde.
Oui, en une fois, tu as plus de...
300 000 spectateurs, facilement.
Oui, facile. Ouais.
Mais il y a les retours qui comptent... Le film qui continue d'exister, des trucs où je reçois des trucs, des courriers, où les gens me demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver tel film. Je fais une copie de que j'ai, puis je l'envoie. Comme ça.
Oui, mais c'est comme ça que j'ai pu le revoir. Parce que j'avais vu quand il était passé sur Arte.
Je pirate mes propres films.
Alors, j'aimerais qu'on tente d'expliquer et de relativiser peut-être sans chercher à déterminer c'est la faute à qui, tout ça. On est d'accord, c'est juste à chercher des conditions objectives qui peuvent conduire à l'échec ou à la réussite, ou plutôt au succès d'un film. Tu dis que tu ne cherches pas le succès, mais tu ne cherches pas l'échec non plus, on est d'accord. Hein.
Non.
Bon.
Non, non.
Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont stupides? Ils ne vont pas voir les bons films?
Non, ils n'ont pas. Non, ils n'ont pas forcément envie. Il y a une promotion qui n'est peut-être pas suffisante ou pas bien faite.
On est d'accord.
Il y a la critique qui n'est peut-être pas à la hauteur toujours. Il y a plein de raisons. Et puis il y a le moment. Moi, je crois qu'il y a le moment où sort le film. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments.
Oui.
Ouais. Il y a des films. Il y a des exemples de films sortis en échec et qui ressortent un an après et qui fonctionnent. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a des exemples comme ça.
Mais je pense à un film de toi qui est très bien, avec peut-être un problème avec les acteurs, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est le Van de Galerne.
Van de Galerne,
oui. Ouais. Ça se passe en 93. Attends, juste j'essaie de replacer...
1793.
Ouais. Et tu prends le parti des Chouans. Enfin,
non.
Un petit peu quand même. Un petit
non,
peu.
En tout cas, c'est le Breton. Non, justement, les Chouans, c'est les Bretons.
Oui, oui.
Même les Vendéens, ils se revendiquent comme Chouans.
Oui, tout à fait. On est d'accord, c'est les Vendéens.
Je t'interromps, la Chouannerie est une révolte catholique et royale.
Voilà, oui, c'était plus au nord, là-bas, du côté de Fougères, là-bas, effectivement. Oui, oui. Mais tu prends le parti, quand même, on sent que tu aimes ces gens. Et c'est la moindre des choses, après tout, tu les filmes, c'est pas... Et du coup, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ton film. D'ailleurs, juste une explication, excuse-moi, mais j'ai lu un article sur Sud-Ouest, tu t'en souviens peut-être de cet article, où il disait qu'il y avait Marcel Julien au scénario, qu'il a quitté le film. C'est vrai, ça? Oui. Et qu'il y avait un conflit entre lui et toi.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, parce que lui, il était...
Marcel Julien, quand il parlait de la République, il disait « la chienne ». Tu vois ce qui nous oppose.
Oui, hein. D'accord, oui. Ok.
Voilà.
C'est un minimum.
Et comme en plus, ce qu'il a pu mettre dans le scénario, on ne le voit plus beaucoup à l'écran, il n'était pas très content non plus. Voilà. Il a même... Qu'est-ce qui s'était passé d'ailleurs? Il voulait retirer son nom.
Mais il a retiré son nom.
Il a retiré son nom,
oui, oui, oui.
Il n'y est plus. Oui, non, ça a été très conflictuel. Hein.
Bah, c'est compliqué à faire un film si tu es en désaccord avec, avec un monsieur.
En plus, je le fais en grande partie au Puy du Fou. Mais ce film a un réel problème. Enfin, ce n'est pas le film d'ailleurs qui a un problème. C'est le rapport qu'on a avec cette histoire. Ce qui est raconté dans ce film, c'est des paysans qui demandent à la République de tenir ses engagements.
Oui. Ok, oui.
C'est pour beaucoup, ils étaient partis combattre au début dans les armées de la...
Valmy, tout ça, oui. Ouais.
Ces gens-là demandent à la République de tenir ses engagements, ce qu'elle ne fait pas. Ils se révoltent, ils descendent, tu sais, comme les paysans, quoi. Ils descendent à la sous-préfecture, ils foutent les soutes, ils brûlent... Ça, la République, elle n'a pas aimé. On leur envoie très rapidement la troupe. Eux, comme ils sont têtus comme des mules, ils décident d'affronter. Et ils vont voir leurs nobles qui ne veulent pas y aller. Charette, tout ça, ils ne veulent pas aller au combat. Ils les obligent. Charette, il s'était planqué sous son lit.
Ah oui. Voilà. Ah, c'est pas ce que tu montres dans le film.
Après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont ces gens-là à la tête et qu'ils ont besoin d'éléments? Là, ils finissent par rejoindre l'armée royale et catholique et ils finissent par devenir une armée contre-révolutionnaire.
Mais...
Et ils sont baisés. Tout le monde est baisé. Et quand tu racontes ça, la droite dit, le Figaro en l'occurrence, que je suis un anarchiste et la gauche, tout le monde, que je suis un homme de droite.
Voilà, c'est l'explication que je voulais t'entendre.
Mais ils avaient fait pareil, enfin, je ne me compare pas, je n'oserais pas, mais ils avaient fait pareil avec Furet. Quand Furet écrit... la Révolution française,
François Furet, oui.
On le traite comme de droite. Aujourd'hui, personne n'oserait le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, à droite comme à gauche.
Et le film, en plus, il sort en 89, l'année où on célèbre le bicentenaire de la Révolution. Toi, tu les as additionnés sur ce film.
Ça, c'est pas de chance.
Non, c'est vraiment pas de chance.
Ça, mais... c'est pas de chance.
Ouais. En fait, il y avait déjà un petit problème comme ça avec la trace. Tu sais, tu disais, quand le film est sorti, c'était l'année, parce qu'on se tournait vers la région, juste avant l'élection de Mitterrand, c'était encore pas possible. Quand Mitterrand a été élu, c'était devenu possible de faire la trace.
Exactement.
Ouais. Tout à fait, c'est marrant.
C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les bons moments et les mauvais moments. Ouais. La trace, c'est le bon moment. Van der Leyen, c'est le mauvais moment.
je t'ai parlé un jour de la minutie de tes préparations. Ce qui me paraît essentiel, tout de même, quand on prépare un documentaire, un film, il faut quand même savoir de comment on va parler, tout ça. Tu m'as déjà parlé de tout à l'heure, la manière dont tu avais préparé ton premier film. J'ai regardé, il y a quelques semaines de ça, un documentaire sur Arte qui s'appelait « Les origines du langage ». Mmh. Et il m'a semblé que ça t'avait demandé une préparation énorme. Compte tenu du niveau scientifique qu'il y a là-dedans. Je me dis, Bernard est devenu le spécialiste mondial du langage.
Oui, mais ça m'intéresse.
Oui.
Mon problème, il est là. C'est-à-dire que c'est que ça m'intéresse. Donc, du coup, je bosse.
Tu bosses.
C'est quand même la même chose. C'est la même chose. L'intérêt, quand tu traites un sujet, quand même, à pas déconner, quoi.
Pas être pris en défaut. Pas être pris en défaut.
Mais les origines du langage. Non, mais je suis obsessionnel hein, quand même. Là, par exemple, sur les livres sur lesquels j'ai travaillé, sur celui sur lequel je travaille, je vais fouiller quand même extrêmement loin.
On en parlera à la fin de ce que tu fais en ce moment.
Mais c'est comme ça aussi que tu trouves des idées. Par exemple, avec la trace, je suis allé en bibliothèque, dans les bibliothèques, bibliothèques nationales, etc., pour chercher des documents sur le colportage. Parce qu'il n'y avait pas des tonnes de trucs. Mais bon. C'est comme ça que je tombe sur quelques petits livres de colporteur. De colporteur qui avait écrit leurs souvenirs. Je m'en sers dans le film.
Mais bien sûr.
Ça me donne des idées. La scène où il roupille et qu'il y a un type qui essaye de l'assassiner et le propriétaire de la ferme tire un coup de fusil, c'est une histoire vraie d'un colporteur provençal.
C'était assez courant. Les assassinats de colporteurs la nuit. Oui, c'est assez courant.
C'est pour ça qu'ils ne dormaient pas. C'est pour ça qu'ils ne dormaient pas dans les cabarets, etc. Ils préféraient dormir dans la grange d'un paysan, voire dans le chenil avec les chiens, pour éviter de se retrouver confronté à une agression.
Oui.
Parce qu'ils ne revenaient pas tous. Hein.
Fin de la première partie de l'entretien réalisé par Michel Najar avec Bernard Favre.
j'ai bercé des enfants incurables avec des fables sur les étoiles. J'ai imaginé de belles histoires pour déguiser les limites des visages et les anneaux de regards. J'ai vu le monde derrière mes larmes, il était si beau. Dans le cœur de l'exil, je t'ai trouvé.